La campagne pour les élections municipales. À la fin de ce journal, retrouvez un débat avec les listes en lice sur Nouméa et dans le journal, présentation des enjeux à la fois Éponay-Rouyn. Une affaire de meurtre pour la première affaire de la session d'assises. L'homme qui comparait depuis ce matin avait violemment frappé son ex-compagne à mort à Thiot. C'était en août 2023. L'ouverture à Tokyo du 51e salon Foodex, salon leader dans le secteur sur lequel figurent des produits calédoniens d'exception. 10e jour de frappe américano-israélienne en Iran, mais la guerre est bientôt finie, déclare Donald Trump. Les marchés financiers réagissent positivement. L'enquête sur le terrible incendie de Crans-Montana en Suisse le soir de la Saint-Sylvestre n'est pas terminée. 4 nouvelles personnes, dont le maire de la commune, sont poursuivies par la justice suisse. Et puis en sport, la délégation française décroche 2 nouvelles médailles aux Jeux paralympiques d'hiver et figure au 8e rang du classement des médailles. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Exceptionnellement, pas de magazine citoyen à la fin de cette édition, mais un des nouveaux débats sur les élections municipales. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
Un débat consacré à la commune de Nouméa.
Et oui, nous le consacrerons ce midi, ce débat, dans le cadre des élections municipales des 15 et 22 mars à la ville de Nouméa, où 8 listes sont en présence. Impossible de faire un débat à 8. Nous avons donc fait le choix d'inviter les 5 candidats ayant une représentativité élective ou issus d'un parti représenté dans les institutions. Il s'agit, dans l'ordre du tirage au sort officiel, de Virginie Refnac pour Nouméa, une énergie nouvelle, Philippe Dunoyer qui conduit la liste Nouméa l'après, laissé à Johnny Hop de la liste Unité Pays qui sera représentée par l'une de ses colistières, Haute Forest, Sonia Lagarde, le maire sortant qui conduit la liste Avec vous pour Nouméa, et Pierre Wong de la liste Unis pour la diversité. Un débat de 45 minutes environ dans lequel chacun pourra se présenter, présenter sa candidature. Et nous parlerons ensuite de 3 grands thèmes, le bilan de la mandature, la sécurité et les grands projets ou les éléments clés de chacun des programmes. On se retrouve donc à midi avec nos 5 invités pour ce débat consacré au municipal dans la ville de Nouméa.
Et en attendant, intéressons-nous à la donne sur la commune de La Foye, qui comptait au dernier recensement 3552 habitants. Le maire sortant, Florence Roland, qui avait succédé en 2020 à Nicolas Metzdorf, devenu député, conduira la liste Union pour La Foye face à 3 autres listes. Elle a notamment été élue en 2025 à la présidence de l'Association des collectivités et des communes du Congrès. Florence Roland, qui entend poursuivre son action à la tête de la commune.
Donc on a une liste qui est renouvelée aux 2/3. Pourquoi l'Union ? On a décidé de se rassembler avec les Républicains calédoniens, le Rassemblement, mais ça va au-delà d'une étiquette politique, puisque les gens qui sont au sein de ce groupe de l'Union ne sont pas forcément encartés. Donc c'est aussi des personnes qui veulent s'investir pour le village. 3 points essentiels que nous voulons mettre en avant. Dans un premier temps, c'est aussi une continuité, parce qu'on n'a pas pu aboutir certains projets. Je pense notamment au funérarium. Le point primordial, ça reste 1, la sécurité, la sérénité pour les Lafoyens, donc ça passe aussi par le renforcement de notre maillage de vidéoprotection avec une interconnexion qu'on ferait sur les communes de la côte ouest. La deuxième partie, c'est tout ce qui concerne les travaux. Donc on a un axe prioritaire sur nos routes, des zones prioritaires. Je pense notamment à Popidéry, Pocreux, les routes menant aux tribus avec Piera, Tia également. On va pas vendre un programme avec des routes à 200 millions, ça c'est pas possible, mais déjà de façon très pragmatique, avec un assainissement digne de ce nom. On a aussi toute cette politique jeunesse qu'on continuera de mener avec des festivités, des fêtes annuelles où on rassemble nos anciens, nos plus jeunes et comment on continue de faire vivre l'esprit de la foi au sein de ces festivités-là. On veut continuer de porter les projets structurants qu'on souhaite mener sur la commune de La Foye. Je pense notamment au lycée, à la gendarmerie, tout un projet avec le FSH sur de l'accession à la propriété. En tout cas, on continuera de tenir ces projets pour améliorer le quotidien des Lafoyens.
Face à elle, le maire sortant aura donc 3 autres listes, à commencer par Osons La Foye, menée par Steven Skaouda, adjoint d'éducation de métier et conseiller depuis 2021 au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
J'ai 43 ans, je suis père de famille, je suis originaire de la tribu de Watom sur La Foye et je suis de métier adjoint d'éducation au vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie et depuis 2021 conseiller au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Une liste d'ouverture, vraiment d'ouverture de plusieurs personnes qui sont issues de plusieurs mouvances politiques mais aussi des personnes de la société civile qui ne font pas de politique, mais qui sont investis pour leur village. Donc vraiment une liste d'ouverture et la seule étiquette politique, la seule étiquette de notre liste, c'est La Foye. Le programme qui est plus un projet de société à la dimension de La Foye, avec deux piliers. Deux piliers, c'est le lien intergénérationnel et le lien entre les communautés, donc le vivre ensemble. Ces deux piliers ont alimenté le programme. Donc pour le lien intergénérationnel, c'est s'occuper des Lafoyennes et Lafoyens de la naissance au décès. Et toutes les étapes de la vie ont alimenté ces priorités parce qu'on n'a pas de projet, on a dans le programme, c'est des priorités, parce que les priorités sont réalisables. Le deuxième pilier, qui est le lien entre les communautés, qui est très très important, c'est un lien qui a été perdu selon nous. On a vu pendant les émeutes de 2024 que la foi n'a pas trop été touchée au niveau des communautés, parce qu'il y avait un travail en amont dans les années précédentes pour faire vivre ce vivre ensemble. Et aujourd'hui, on veut le redynamiser parce que c'est la force de la foi, parce que le slogan jusqu'en 2020, c'est à l'âge de la foi, c'était la foi, tout commence là. Donc, ces deux piliers qui ont alimenté 5 axes de notre programme avec 2 projets structurants et 7 causes communales.
Également en liste pour ce scrutin à la fois la liste Syrie 2026, conduite par Pierre Monnet-Fara, qui siège déjà au conseil municipal.
C'est depuis 2001 qu'on est présent sur la commune, qu'on se présente toujours pour défendre surtout les intérêts des tribus en matière d'équipement, de routes, d'eau, d'électricité, et surtout le développement qu'il peut y avoir à l'intérieur de nos tribus. Aujourd'hui, en 2026, hein, c'est un peu ce que tout le monde, c'est un peu la préoccupation de tout le monde, c'est la partie budgétaire de la commune, c'est les finances, quoi. Il y a plus de sous dans les communes, donc il faut regarder comment on peut continuer à au moins stabiliser les choses au sein de la commune. Sur la partie budgétaire, on a 3 piliers, au moins de maîtriser les dépenses, prioriser les investissements cofinancés par l'État et la province. Le deuxième pilier, c'est la diversité des ressources de financement. On encourage plus les projets privés et publics. Et surtout, le troisième axe, c'est développer une politique publique en partenariat avec l'État, la Nouvelle-Calédonie, la province sud, essayer de trouver davantage de synergies autour de ça. Parce que ça, tout va dépendre de ça. On pourra faire des grands projets aux études, mais s'il n'y a pas de tout dans nos communes, on ne pourra pas aller plus loin. Et nous, comme je dis, en matière d'infrastructure, surtout infrastructure primaire, hein, c'est le deuxième volet de notre programme, les priorités pour nous, c'est d'assurer le maintien des réseaux d'eau, d'électricité, des routes.
Et enfin, une dernière liste est en liste à la fois, nos racines pour construire l'avenir, une liste UCFLNKS dont la tête de liste est Sandrine Ndouma.
Pour une proximité, une justice, une souveraineté. On veut une commune qui protège ses habitants, qui soutient ceux qui produisent et qui travaillent, qui valorise l'identité du peuple premier, apporter du plus, dynamiser la mairie, la commune, pour le bien de chaque citoyen, à travers des actions, je pense par exemple à l'intercommunalité, avec le SIVM, rajouter certains points, apporter des idées nouvelles et faire valoriser l'identité kanak, faire de la foi un exemple. Elle est déjà un exemple, une commune rurale équilibrée, qui soit attachée à ses racines, et qui se tourne vers l'avenir du pays. Parce que l'avenir du pays commence dans chaque tribu, dans chaque communauté. Construire ensemble un village souverain, solidaire et digne, surtout. C'est aujourd'hui qu'on décide l'avenir de notre pays. Ça passe par notre commune, donc faites les bons choix.
4 listes seront donc en présence au premier tour de ces élections à la fois. Il y a 25 sièges à pourvoir pour composer le conseil municipal. Intéressons-nous maintenant à la donne à Ponérioin avec une question. Qui succédera à Pierre Chanel Tutugoro? Le maire sortant et président du groupe UCFLNKS et nationaliste au Congrès ne se représente pas et 3 listes vont s'affronter lors de ces élections, Charlotte Coulson.
Si l'activité économique de la commune a longtemps été marquée par la culture du café ou même la sylviculture, aujourd'hui, ces commerces sont à l'arrêt. Les 2332 habitants de Ponérioin vivent de pêche ou d'agriculture, une pratique qu'ils partagent à l'occasion de la fête du tarot et de l'igname chaque mois de juillet. Ce dimanche, ils devront choisir entre 3 listes pour les représenter ces 6 prochaines années. La première est soutenue par le maire actuel, Pierre Chanel Tutugoro, à la tête de l'équipe municipale depuis 2014, qui ne se représente pas. C'est Océa Nauchoué, 40 ans, directeur du centre culturel de Koné et originaire de Ponérioin, qui tire la liste UCFLNKS et nationaliste pour Aïriwa.
Ce qu'on veut faire pendant notre mandature, c'est vraiment de mettre la jeunesse au centre, de lui montrer un peu toutes les opportunités qu'il a. Donc on connaît très bien l'actualité politique. Et ce pourquoi nous on se présente. Donc c'est pour ça qu'on va essayer ce qu'on va faire. C'est exactement notre slogan, innover, inventer, créer pour avancer. Donc on sait très bien que les temps sont durs. Donc il faudra qu'on innove déjà avec ce qu'on a, puis essayer de les accompagner dans la création, dans le développement économique ou culturel ou sportif. Et puis voilà, on va vraiment montrer une mairie. Parce que ça, c'est le deuxième point qu'on avait. C'était une mairie qui est proche un peu de la population et qui soit vraiment accessible. Un des projets auxquels on a beaucoup pensé, c'est la maison des jeunes. On a essayé de rassembler tout le monde pour créer une force vive qui soit vraiment jeune. On a aussi misé aussi sur la cohésion sociale. Donc essayer de recréer une dynamique dans le village.
Un autre candidat, il était dans la majorité municipale depuis 2020, mais a choisi avec ses colistiers de faire liste séparée. Eugène Morampon mène Toimi Ribouiti Poirairiwa, une liste qui se dit d'ouverture.
Les enjeux, c'est ce qui compose aussi notre programme, la jeunesse. C'est important pour nous de prendre en compte et de travailler avec eux et de leur permettre aussi d'avoir plus facilement des accès au monde du travail, au monde professionnel. Donc on va leur permettre aussi, durant la mandature, de venir à la mairie, de se sentir bien et puis de trouver tout ce qu'ils ont besoin. Il y a des projets aussi au niveau de la jeunesse, de continuer à développer notre club communal. Donc on a des plateaux sportifs qu'on a installés dans toutes les tribus pour les dynamiser. Et on a un animateur communal justement qui est en place et qui a fait du très bon boulot. Et puis voilà, on a plein d'autres projets comme le centre de tri et de transfert. On a aussi le grand marché à mettre en place. Et puis voilà, si on accède à la mairie, c'est de mettre en place des projets, mais avec la population, très concret, terre à terre avec le quotidien de la population.
Et à Ponérioin aussi, l'UNI va tenter d'accéder à la municipalité. C'est Astrid Gopoea qui mène la campagne. Âgée de 43 ans, elle est enseignante en langue et habite la commune.
Ici, sur Ponérioin, on voit quand même l'état de nos routes aujourd'hui. Ça veut dire que c'est un budget. Il faut aussi qu'on ait le matériel nécessaire pour pouvoir entretenir nos routes de manière quotidienne. Donc c'est peut-être remettre les financements là où il faut. Peut-être remettre des priorités dans le service public. Pour donner un exemple, et puis l'eau, on voit très bien aujourd'hui, par exemple, Ponérioin, l'école, elle est fermée parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de transport. C'est une vraie difficulté, donc c'est de dire que la commune, peut-être, faut qu'elle revoie tous ces besoins-là. Et l'aspect sécurité aussi, une demande de la population, parce que pas mal d'événements sont arrivés sur notre commune, des actes d'incivilité, mais ce sont des choses où il faut qu'on discute beaucoup avec les citoyens, qu'on partage, en échange avec eux.
Je récapitule les listes en lice pour les municipales dans la commune de Ponérioin, Océane Outchoué qui tire la liste, UCFLNKS et nationaliste, Astrid Gopoea, la liste UNI, et Eugène Morampon est à la tête de la liste Toimi Ribouiti Poirairiwa.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la réponse à notre question d'hier. 82% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils savent déjà pour quelle liste ils voteront pour le premier tour des élections municipales qui a lieu dimanche, le 15 mars. Ils sont 18% à dire qu'ils n'ont pas encore fait leur choix. Voici notre question du jour. Êtes-vous favorable au regroupement des bureaux de vote mis en place par Nouméa et les communes de l'agglomération pour les élections municipales? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. Une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, et notamment la première session d'assises de l'année à Nouméa.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Les bons plans sont dans votre magasin Team Sport. Profitez de 20% de remise sur tous les maillots de clubs de football et de 30% sur la marque Champion. Dépêchez-vous, c'est valable jusqu'au 21 mars seulement. Team Sport, au centre-ville de Nouméa, ouvert du mardi au samedi de 9h à 17h30.
Votre tranquillité d'esprit, avant tout. Pour recevoir toutes les informations importantes sur les coupures, le montant de votre facture et la date d'autorelève, mettez à jour vos contacts e-mail et numéros de téléphone. Contactez-nous à clientèle@cde.nc ou au 05 01 25. Calédonienne des eaux, l'eau qui nous unit.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Les membres russes du gouvernement, Gilbert Tuénon, Michael Forest et Samuel Népéoun, demandent au président du gouvernement de différer le transfert d'Erkel sur Tontouta. Dans un long communiqué qui retrace tout l'historique de la situation, ils affirment que l'enlisement du conflit nécessite une réaction de leur part. Pour eux, il n'est pas admissible que la province des Îles et l'île des Pins se retrouvent isolées, victimes d'une suspension totale de la desserte aérienne, conséquence d'une décision qu'ils qualifient de mal préparée et mal comprise. Les membres russes du gouvernement demandent donc que le transfert du transport domestique sur Tontouta soit différé, le temps de réunir plus de conditions qui permettront à terme de rendre ce transfert plus acceptable pour les habitants des îles. Ils demandent par ailleurs qu'une aide financière suffisante soit prévue afin de permettre à Air Calédonie de passer le cap difficile des trois prochaines années et de mieux préparer son transfert sur Tontouta. Un féminicide jugé aux assises. Pour la première affaire de la session d'assises de l'année 2026, les jurés se penchent depuis ce matin sur le meurtre d'une femme par son ex-compagnon. On revient sur les faits avec vous, Léana Colombo, en direct du palais de justice de Nouméa.
Oui, Jean-François, le 28 août 2023, à Thiou, au petit matin, le corps d'une femme est retrouvé dans un champ dissimulé derrière de hautes herbes à proximité de la RP1. Les enquêteurs constatent que le corps, baignant dans son sang, présentait des plaies crâniennes profondes. Je cite, le nez était explosé, la mâchoire déboîtée et les dents disloquées. La mort serait due à un traumatisme crânien par au moins 4 coups violents à la tête. Après être allé manger chez son frère, l'ex-compagnon de la victime avoue l'avoir tué. La veille du meurtre, après une journée où la victime et l'accusé ont consommé du cannabis et de l'alcool en forte quantité, près de 2 bouteilles de pastis pur selon l'accusé, ils se sont rendus à une fête d'anniversaire. L'alcool coule de nouveau à flot et une dispute éclate. C'est presque devenu courant dans leur relation où l'accusé jaloux avait de nombreuses fois été violent avec la victime. Cette dernière quitte alors la fête, mais l'accusé la suit et lui demande des explications. Il se saisit à 2 mains d'une pierre d'1,8 kg et lui assène plusieurs coups à la tête. Il voulait l'éclater avec le caillou, selon ses termes. Elle l'avait mérité. Le magistrat instructeur a malheureusement souligné que ce meurtre s'inscrivait dans la continuité de violences conjugales particulièrement graves. Depuis son audition, l'accusé est placé en détention provisoire. Depuis ce matin, après la lecture des faits, l'accusé s'est excusé auprès de la famille de la victime. « Je ne suis pas venu pour me défendre, mais pour être jugé », a-t-il déclaré. Malgré les questions du président et des avocats, l'accusé condamné à de multiples reprises pour des faits mineurs antérieurs s'est muré dans le silence et a refusé de répondre, soulignant uniquement attendre le verdict, un verdict qui ne devrait arriver que demain après l'audition des témoins. Il risque la réclusion à perpétuité étant considéré comme le concubin ou partenaire de la victime au moment des faits, ce qui constitue un fait aggravant. Depuis le palais de justice de Nouméa, Léana Colombo, RRB.
Être présent, accompagner, écouter, ce sont les mots d'ordre des bénévoles de l'Association pour la qualité de vie des patients. Aujourd'hui, l'AQVP manque de volontaires et elle lance un appel à bénévoles, Charlotte.
En 2024, 3500 personnes en fin de vie, seules ou en souffrance, ont vu toquer à leur porte un ou une inconnue. Cet inconnu, c'est un bénévole de l'AQVP qui, pendant au moins une heure, offre une écoute sincère. Aujourd'hui, une vingtaine de personnes consacrent leur temps au bien-être des patients, que ce soit au Medipôle, à la clinique ou en EHPAD. C'est déjà bien, mais Brigitte Descombes, la présidente de l'AQVP, aimerait accueillir de nouveaux volontaires.
On recrute puisqu'on n'a pas suffisamment de bénévoles pour répondre à toutes les demandes que l'on a et pour satisfaire aussi notre travail. En fait, on accompagne les personnes en souffrance et également les personnes qui sont seules. On fait acte de présence auprès d'eux. Avec de l'empathie, bien sûr, de l'écoute, dans le non-jugement. On est là pour leur apporter un espace de bien-être. On n'est ni le milieu médical, ni la famille, donc ils peuvent exprimer ce qu'ils veulent et en toute liberté.
Attention, devenir bénévole au sein de l'association est un engagement sérieux. Il y a un processus de recrutement, une formation à suivre. La mission d'accompagnement peut parfois être challengeante, mais apporte aussi beaucoup de bonheur, insiste Brigitte Descombes.
Il faut toquer à une porte. Qui y a derrière ? On ne sait pas qui y a derrière la porte. Et entrer, se présenter, et puis quelquefois être jeté. Il y en a qui ne veulent pas échanger, qui ne veulent pas communiquer, qui sont en colère. Et donc, il faut s'attendre aussi à ça. Mais il faut s'attendre aussi à de très, très belles expériences. Ce qui est difficile, voilà, c'est de toquer à une porte. Mais après, quand cette porte est ouverte, ça vous procure tellement de joie. Vous savez, les personnes nous disent « Revenez, ça m'a fait du bien. » Il y en a qui pleurent. On est porté par tout ça. Ce que vous dites « Ah, j'ai fait quelque chose, j'ai apporté quelque chose à quelqu'un. »
Si vous êtes intéressé, vous avez jusqu'à vendredi pour vous inscrire. Pour cela, il faut prendre contact avec l'association au 753 357 ou à l'adresse mail aqvpnc@gmail.com.
Et prenons maintenant la direction du Japon et plus particulièrement de Tokyo où s'est ouvert ce matin le 51e salon Foodex, le plus grand salon professionnel dédié à l'alimentation et aux boissons en Asie. Pendant 4 jours, plus de 3000 exposants venus de 80 pays y participent. Des Calédoniens sont de la partie, notamment l'exportateur Taishi Stani Furukawa. Il était présent par téléphone la semaine dernière dans les Jeudis de l'économie.
Il y a 3000 stands, dont un Calédonien, donc je suis vraiment très fier d'être ici. Je vais donc présenter pas mal de produits calédoniens, comme le miel un peu de partout, hein, de Bouraille, de Difou, de Makiminié, tout ça. La vanille de Julien Pascal, et aussi le sel qui est issu du lagon patrimoine mondial de l'UNESCO qui est dans le Nord. C'est assez compliqué, même niveau logistique, niveau prix des produits, la quantité aussi. Vous savez que les meilleurs produits du monde entier veulent s'installer à Tokyo, au Japon. Et du coup, bah, nos concurrents, bah, c'est le monde entier, quoi. On essaye d'être vu au Japon, d'essayer de gagner quelques importateurs, les dirigeants qui veulent bien investir dans ce projet-là à long terme et de pouvoir réussir que les produits calédoniens puissent s'installer au Japon.
Le 51e salon Foodex à Tokyo ouvre donc ses portes aujourd'hui. Et si vous souhaitez revenir sur l'émission des Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, sachez qu'elle est toujours disponible en audio et vidéo sur notre site internet. Dans un instant, nous ferons le point sur la guerre au Moyen-Orient. Ce sera une page consacrée à l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Nikko Sushi Bar, votre restaurant sushi depuis 1998. Sur place de 11h à 14h et à emporter de 9h à 19h30. Mardi et samedi, tous les sushis à 350 francs, mercredi moins 15% pour les familles et vendredi soir, sushi à volonté. Téléphone 25 11 88, Facebook Nikko Sushi Bar.
La rentrée est là. Nouvelles habitudes, nouveaux projets et une priorité. Protéger ce qui compte le plus. Chez Groupama Pacifique, profitez jusqu'à 20% de remise à vie sur vos contrats santé, prévoyance et accidents de la vie. Parce qu'une bonne rentrée, c'est aussi une protection qui dure. Rendez-vous dans nos agences ou sur groupama-gan.nc. Voir conditions en agence. Groupama.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
La suite de votre journal avec Jean-François Bodin.
Un dixième jour de guerre au Moyen-Orient. Les frappes de la coalition américano-israélienne se poursuivent pour détruire les installations militaires et stratégiques et les lieux de pouvoir. Et l'Iran poursuit ses ripostes. Mais la guerre est bientôt finie en Iran, a déclaré le président américain tôt ce matin pour nous. Donald Trump parle d'une excursion de courte durée. Déclaration qui rassure les marchés financiers. Wall Street a clôturé dans le vert après avoir passé la majeure partie de la journée dans le rouge. Le cours du pétrole qui avait franchi les 100 dollars le baril est lui reparti à la baisse. C'est évidemment une bonne nouvelle car les prix à la pompe ont atteint des records en métropole avec un litre de gazole à 2 euros, c'est-à-dire 240 francs le litre. Bercy annonce des contrôles qui vont être effectués par la répression des fraudes pour traquer ceux qui profitent de la guerre pour augmenter l'essence à la pompe. Et pour l'instant, pas question d'une aide de l'État pour amortir le choc. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Le RN réclame notamment des mesures de soutien aux consommateurs, mais pour Maud Brejon, il est trop tôt pour mettre en place des aides ciblées. La porte-parole du gouvernement et ministre délégué à l'énergie souligne qu'une baisse de la TVA creuserait d'environ 20 milliards d'euros le budget de l'État, déjà très déficitaire. Pour l'instant, effectivement, l'exécutif mise plutôt sur des contrôles dans les stations-service afin d'éviter toute augmentation abusive des prix à la pompe. Des sanctions sont possibles, même si Maud Brejon reste encore floue sur le sujet.
Tout est sur la table. Pour autant, nous, on n'est par exemple pas favorable à la proposition de la France insoumise qui consiste à aller vers un blocage des prix parce qu'on est dans une économie de marché et qu'aller vers un blocage des prix, ça vous emmène nécessairement à une pénurie qui impacte les consommateurs. Mais il y a évidemment des moyens de sanction. Nous ne souhaitons pas en arriver là.
À ce stade, le gouvernement mise donc sur le dialogue. Maud Brejon annonce qu'elle réunira de nouveau les distributeurs d'ici la fin de la semaine avec le ministre de l'économie Roland Lescure. Objectif, faire un point sur la situation après les premiers contrôles.
Nous ne participons pas à un conflit en cours, mais nous opérons dans ce cadre. Déclaration d'Emmanuel Macron qui s'est rendu la nuit dernière pour nous à Chypre avant de rejoindre le bord du Charles de Gaulle, le porte-avions français déployé en Méditerranée. Le blocage par l'Iran du détroit d'Ormuz perturbe l'activité économique mondiale. C'est aussi par cette voie maritime que transite 20% de la consommation mondiale de pétrole. Emmanuel Macron souhaite mettre en place une mission internationale pour escorter les tankers avec des moyens militaires et débloquer la voie maritime.
La mission est exigeante, mais je vous sais à la hauteur de celle-ci. La France est là pour protéger les siens, pour être aux côtés de ses alliés et de ses amis qui sont frappés, et pour pouvoir participer à des missions ô combien essentielles de liberté de navigation et de sûreté maritime. C'est dans ce cadre strict que nous opérons. Nous ne participons pas à un conflit en cours. et nous opérons dans ce cadre.
Quant au régime iranien, il est affaibli mais toujours au pouvoir. Le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, a été désigné pour succéder à son père, Ali Khamenei, tué aux premières heures de frappe américano-israélienne. Le nouveau guide suprême est déjà dans le viseur d'Israël et ses jours semblent déjà comptés. Frédéric Simon pour Europe 1.
C'est désormais l'une, si ce n'est la cible prioritaire d'Israël, ont confirmé les dirigeants de l'État hébreu, comme l'armée de Tsahal, qui a intensifié ses frappes sur l'Iran dès l'officialisation de la nomination du nouveau guide suprême. La stratégie reste la même, viser les hauts responsables du régime, mais aussi ses infrastructures militaires, nucléaires, énergétiques. L'armée israélienne dit aujourd'hui avoir détruit un site de lancement de drones et de missiles. Elle a aussi ciblé une usine de moteurs de fusées, ainsi que des centres de commandement de la police et des gardiens de la Révolution. Les représailles iraniennes ont été presque directes. On parle d'une dizaine de frappes vers Israël aujourd'hui. La plupart ont été interceptées. Mais ce matin, la tête d'un missile à fragmentation s'est écrasée en banlieue de Tel Aviv, à 2 km à peine de l'aéroport international, faisant un mort au moins et deux blessés graves. Un seul missile à fragmentation, je le disais, qui a touché 6 différentes zones dans l'est de Tel Aviv. Un nouveau défi pour la défense anti-aérienne, d'autant que la menace vient aussi du nord du pays, du Liban, où le Hezbollah poursuit ses frappes de drones et de roquettes. L'une d'entre elles a fait 4 blessés en fin d'après-midi à Tel Aviv.
Dans l'actualité en métropole, en bref, l'embarras du Parti socialiste qui prend officiellement ses distances avec LFI. Pas d'alliance entre les deux partis pour le premier tour des municipales. Exception faite des grandes villes pour tenter de sauver les candidats de gauche. Et puis cette note du renseignement territorial. Le nombre de rixes entre des groupes d'extrême gauche et d'extrême droite a progressé de 40% entre 2024 et 2025. Et selon cette note, 7 rixes sur 10 sont provoqués par l'ultra-gauche. Il est 11h et bientôt 57 minutes. La dernière pause de ce journal, on voit l'actualité sportive et ensuite on retrouve le grand débat municipal consacré à la ville de Nouméa.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Et si votre prochain repas vous faisait gagner gros? Avec la casserolette, tentez de remporter un Samsung Galaxy 5G, des tablettes et jusqu'à un an de repas offerts. Pour jouer, direct sur la page Facebook La Casserolette. Je répète, la page Facebook La Casserolette. Likez, commentez le visuel avec la bonne réponse et c'est parti. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Au fait, depuis peu, on vous attend 69 route du Port des Pointes, Faubourg Blanchot. La casserolette, le goût, le jeu, le plaisir. Ça bouge aux occasions du village automobile. Découvrez notre tout nouveau parking d'occasion avec plus de 200 véhicules contrôlés, garantis au meilleur prix. Pick-up, SUV, citadine, bon plan prêt à partir. Faites le choix gagnant aujourd'hui. Et pour les véhicules neufs, c'est aussi au village automobile. Avec 11 grandes marques et des remises spéciales rentrées exceptionnelles. Véhicules neufs ou d'occasion, une seule adresse. Le village automobile au PK4 à Nouméa. Offre valable du 23 février au 10 mars. Voir conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Tout le sport en 3 lettres. RRB.
La fin de votre journal avec Jean-François Baudin.
Oui, c'est le sport avec de nouvelles médailles pour la délégation tricolore aux Jeux Paralympiques de Milan-Cortina. Une médaille en argent, une autre en bronze, Léo Fichou.
Deux podiums en super G debout chez les dames. D'abord, Aurélie Richard est montée sur la deuxième marche. C'est sa deuxième médaille d'argent sur cette Olympiade après la descente. Elle était forcément ravie. Écoutez sa réaction.
Celle-là, elle est incroyable. Arrivée en bas, je pensais pas être deuxième parce que j'ai fait vraiment beaucoup de fautes sur le tracé. J'étais à deux doigts de sortir à plusieurs reprises. Et au final, d'arriver en bas, voir le deuxième, moi, je visais forcément encore une fois la médaille d'or. Comme j'ai dit, quand je pars, c'est pour essayer de gagner. Mais celle-là, avoir une deuxième place, c'est quand même pas rien avec toutes les fautes que j'ai fait. Et cette médaille, elle est... Ça en fait deux, quoi. Je suis trop contente.
L'autre médaille de la nuit a été décrochée par Jules Segers. Du bronze pour celui qui était attendu sur les épreuves techniques, mais qui a finalement su tirer son épingle du jeu sur le Super G debout. Avec ses deux nouvelles médailles, la France compte désormais 5 médailles. Une en or, 3 en argent, une en bronze. Les Bleus sont 8e au classement général. La Chine est toujours en tête devant l'Ukraine et l'Autriche.
Le cyclisme maintenant avec une victoire surprise cette nuit sur la deuxième étape du Paris-Nice.
C'est Max Kanter qui a remporté cette deuxième étape, longue de 187 km entre Épône et Montargis, au terme d'un sprint massif. L'Allemand a notamment pris le dessus sur Axel Zingel, Binyam Girmay ou encore Luc Lamperti. L'Américain termine 5e et conserve le maillot jaune de leader. Le premier Français au général, c'est Dorian Godon. Il est 4e de cette étape.
Et puis en bref, on signalera cette belle solidarité entre handballeuses calédoniennes. Suzanne Wadjoka a rendu visite aux jeunes filles du pôle Espoir Handball. La médaillée de bronze au championnat du monde avec l'équipe de France était accompagnée de Noah Kolivahi et de Mara Vama, anciens joueurs et joueuses de la SDMBA. Les jeunes handballeuses joueuses calédoniennes sont actuellement en métropole pour disputer le championnat de France Interligue féminine. Il est midi, c'est la fin de ce journal. Restez bien avec nous. Dans un instant, un nouveau débat spécial municipal. Il est consacré aujourd'hui, à la mairie de Nouméa. Débat animé par Elisabeth Noir.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.